Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron perd son conseiller spécial. Ismaël Emelien annonce ce soir sa démission. Le stratège de l'Élysée est mis en cause dans l'affaire Benalla. Son portrait avec Julie-Marie Lecomte dans un instant. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Mediapart faisait de nouvelles révélations sur Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission a négocié des contrats avec deux oligarques russes. Les précisions de Fabrice Arfi du service enquête de Mediapart. Ouverture demain à Madrid du procès de 12 indépendantistes catalans. Jugé pour le référendum d'autodétermination de 2017, une consultation illégale pour le gouvernement espagnol. Dans ce journal, la correspondance de Marie-Hélène Ballestero et le commentaire de notre invité Manuel Peloual, professeur à l'Université d'Angers. C'est un fidèle parmi les fidèles qui quitte l'Élysée. Ismaël Emelien, conseiller spécial d'Emmanuel Macron, annonce sa démission ce soir dans un entretien au magazine Le Point. Officiellement, il s'en va pour finir un livre sur le progressisme et le président refuse que ses conseillers publient quoi que ce soit quand ils sont en poste à l'Élysée. En réalité, Ismaël Emelien est mis en cause dans l'affaire Benalla. Alexandre Benalla lui avait remis des images de vidéosurveillance obtenues illégalement auprès de la police. À 31 an, Ismaël Emelien était une pièce maîtresse dans la présidence Macron. Son portrait avec vous, Julie-Marie Lecomte.
Emmanuel Macron l'appelle Ismain, un diminutif presque devenu totem au palais, une familiarité ostensible qui en dit long sur le statut du conseiller spécial, un pilier autant qu'un intouchable. Ismaël Emelien, c'est celui vers qui le regard du président se tourne quand il faut trouver la bonne idée. Make our planet great again, par exemple, en réponse à Donald Trump, c'est lui. Lui encore qui défend l'idée d'un référendum comme point d'atterrissage du grand débat national. Ismaël Emelien, c'est le stratège depuis le début. Fin 2015, cet ancien strauss-kahnien, conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy, est à la manœuvre pour lancer une bataille de l'Élysée qui ne dit pas encore son nom. Le mouvement En Marche, le porte-à-porte de l'été, le programme, tout porte sa marque, même si le grand public connaît à peine son visage. En mai 2017, Ismaël Emelien entre lui aussi à l'Élysée, mais dans l'ombre. Son départ, l'entourage d'Emmanuel Macron le démentit comme s'il était impensable.
Julie-Marie Lecomte, merci. Cette démission surprise d'Ismaël Emelien intervient 3 heures après de nouvelles révélations de Mediapart. Selon le site d'information, Alexandre Benalla a joué un rôle majeur dans la conclusion de contrats de sécurité avec deux oligarques russes. L'un de ces contrats a même été négocié alors que Benalla était encore à l'Élysée. Les explications de Fabrice Arfi, co-responsable du service enquête de Mediapart.
Pendant qu'il travaillait à l'Élysée, que par fonction il était dépositaire des secrets de la présidence de la République, qu'il était habilité au secret défense, il a négocié de bout en bout un contrat sécuritaire de plusieurs centaines de milliers d'euros au profit d'un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et soupçonné par plusieurs magistrats européens d'être lié à la mafia. C'est un ancien policier qui est le patron d'une société de sécurité qui a travaillé sur le contrat russe qui confirme publiquement dans les colonnes de Mediapart que Alexandre Benalla a été le chef d'orchestre du début à la fin de ce contrat. Dès qu'il y a eu les révélations du Monde sur les violences du 1er mai, comme le montraient nos enregistrements diffusés il y a une dizaine de jours, Alexandre Benalla a paniqué quant au fait que les policiers pouvaient découvrir le fameux contrat russe qui pose des questions gigantesques, hein, au cœur de l'État, de possibles compromissions. Aujourd'hui, il y a une enquête ouverte par la justice pour corruption. Donc ce même Benalla a changé les montages financiers du contrat russe. C'est lui qui active en sous-main une société française qui a récupéré pour près d'1 million d'euros ce contrat avec l'oligarque Iskander Mahmoudov, mais a contracté en décembre 2018 un nouveau contrat avec un autre oligarque russe, également réputé très proche du Kremlin. Au total, les contrats russes négociés par Alexandre Benalla s'élèvent à plus de 2 millions d'euros.
Fabrice Arfi de Mediapart, il répondait à Rosalie Lafarge. Les actes antisémites sont augmentés de 74% l'an dernier en France, 541 au total. Chiffre donné ce soir par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne pour commémorer le 13e anniversaire de la mort d'Ilan Halimi, ce jeune juif torturé et assassiné par le gang des barbares en 2006. La France qui connaît en ce début 2019 une recrudescence d'actes antisémites. À Paris, une inscription Juden sur un restaurant Bagelstein, des croix gammées sur le visage de Simone Veil peint sur des boîtes aux lettres. Et à Sainte-Geneviève-des-Bois, un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi qui a été scié. La liste n'est malheureusement pas exhaustive. À chaque fois, la justice a été saisie. En Espagne, le procès de 12 indépendantistes catalans s'ouvre demain à Madrid devant le tribunal suprême espagnol. Responsables politiques ou associatifs, ils sont jugés pour rébellion et détournement de fonds. 9 sont en détention. On leur reproche surtout d'avoir organisé une consultation illégale, le référendum d'autodétermination de la Catalogne d'octobre 2017. Hier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Madrid à l'appel de la droite contre le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, accusé de pactiser avec les indépendantistes pour se maintenir au pouvoir. Les explications de Marie-Hélène Ballestero.
C'est le procès le plus attendu et il arrive en pleine tourmente politique, affirmait aujourd'hui le quotidien El País, car rien ne va plus entre le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez et les indépendantistes catalans. Après des mois de rapprochement et de discussions, le gouvernement central ayant même accepté la présence d'un rapporteur indépendant dans le cadre d'une future table ronde, ce qui a provoqué un tollé chez les partis conservateurs et même chez certains socialistes, et bien malgré tous ces efforts, le dialogue est rompu. Le gouvernement Sánchez l'a confirmé vendredi dernier. Selon la numéro 2 de l'exécutif, les indépendantistes ont rejeté la dernière proposition de dialogue en exigeant par ailleurs l'acceptation d'un référendum d'autodétermination. Une demande qui ne sera jamais acceptée par un gouvernement comme le nôtre, a souligné Carmen Calvo. Le chef de l'exécutif Pedro Sanchez est allé plus loin aujourd'hui en postant un message sur son compte Twitter. L'indépendance de la Catalogne n'est pas constitutionnelle et la plupart des Catalans n'en veulent pas. D'après lui, la majorité soutient le dialogue et la Constitution. À cette heure-ci, le dialogue entre Madrid et la Catalogne semble bel et bien rompu, ce qui va augmenter encore plus la tension et la crispation. Par ailleurs, sans l'appui des indépendantistes, le gouvernement socialiste ne pourra pas faire adopter son budget au Parlement, ce qui veut dire que Pedro Sanchez va sûrement devoir convoquer prochainement des élections législatives anticipées.
Marie-Hélène Ballestero, correspondante à Madrid, invitée de ce journal, Manuel Peloual, professeur à l'Université d'Angers, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Manuel Peloual, c'est le procès de l'indépendantisme catalan qui menacerait l'unité de l'Espagne qui s'ouvre demain à Madrid.
Oui, c'est le procès, sinon de l'indépendantisme, des actes très précis qui ont été réalisés au mois d'octobre, novembre et décembre. C'est un procès avec trois chefs d'accusation principaux, malversation et détournement de fonds publics, désobéissance et sédition, et suivant le code pénal et la Constitution. Donc c'est pas seulement le procès du référendum, c'est plus général. Et les accusateurs, il y a trois accusateurs, il y a Vox comme accusateur populaire, il y a l'État et donc le tribunal suprême, enfin la fiscalia.
Alors justement, un mot peut-être sur Vox, l'accusateur populaire. Vox, c'est ce fameux parti d'extrême droite qui est en train de faire une percée électorale en ce moment en Espagne.
Oui, c'est un parti qui a été créé en 2013. Alors on croyait l'extrême droite morte en Espagne, ou en tout cas de l'eau dormante. Et on s'est aperçu avec les élections régionales andalouses il y a quelques mois que Vox a fait une percée. Et le grand argument de Vox, c'est l'unité. Et c'est l'unité qui n'est pas seulement un thème d'extrême droite. Il y a certains Espagnols de gauche aussi qui y sont attachés. Et c'est leur grand argument de campagne. Et ils ont fait un coup de poker, puisque en Andalousie, ils ont obtenu une alliance, le soutien de Ciudadanos et du PP, sur des conditions qui étaient, outre les questions d'unité et la suppression du statut d'autonomie de la Catalogne, l'incitation à la délation des migrants illégaux au nom de la loi et le retrait des mesures en faveur de l'égalité de genre. Ils ont obtenu une alliance très très forte contre les socialistes. Donc c'est un parti qui est en force. Hier, il y avait plusieurs dizaines de milliers effectivement de personnes qui manifestaient au nom de l'unité avec les drapeaux espagnols. Donc oui, c'est un parti qu'il faut surveiller de très près dans un contexte actuel de montée des populismes en Europe.
Est-ce que ce procès qui s'ouvre demain à Madrid risque de raviver les tensions en Catalogne entre séparatistes et espagnolistes partisans de l'unité de l'Espagne ?
Les raviver, je pense que les tensions n'ont jamais faibli, même si on en parle peut-être moins. C'est-à-dire qu'en Catalogne, depuis quelques mois, on a par exemple des comités de défense de la République qui donc sont très actifs dans beaucoup de villes et de villages catalans. On a la position de Torra qui est extrêmement dure, c'est-à-dire qu'il pose trois conditions pour le budget.
Le président du Parlement catalan.
Oui, Quim Tora. Et lui, il veut qu'on rétablisse le rapporteur, il veut qu'on admette le principe d'autodétermination, ce que n'admet pas Sanchez, et il veut qu'on arrête d'arrêter les membres de ces comités de défense de la République. Donc Tora reste sur des positions extrêmement radicales. Après, il y a une partie des Catalans qui peut-être se sont détournés de la cause indépendantiste pure, puisque ça a quand même eu des conséquences économiques sur la Catalogne.
Et que disent les sondages aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une majorité pour l'indépendance en Catalogne parmi la population ?
Alors, je n'ai pas regardé les derniers sondages. De toute façon, c'était même au pire moment de la crise, c'était 50-50, une légère majorité indépendantiste, mais très très légère et qui n'est pas restée longtemps. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé les derniers sondages, mais elle n'est pas majoritaire. Hein. Elle n'a jamais été vraiment majoritaire, c'était toujours tangent.
Manuel Peloual, très rapidement, Pedro Sanchez, on l'a dit, a besoin des indépendantistes catalans pour faire adopter son budget. A priori, il n'aura pas leur soutien. Est-ce que l'on va effectivement vers des élections législatives anticipées en Espagne ?
Alors, oui, disons, il y a trois scénarios possibles. Alors, Sanchez espérait, là j'ai regardé la presse, il espérait un retournement de dernière minute suite à la manifestation d'hier, en espérant que les indépendantistes ne rejoignent pas finalement l'opposition de droite et d'extrême droite qui est opposée à leur cause. Alors ça, il y a peu de chances que cette solution soit la solution qui arrive. Il y a une autre solution, c'est des élections le même jour que les élections européennes, régionales et municipales. Et il y aurait une troisième solution possible qu'il attend ces élections du 26 mai pour voir les configurations électorales, les alliances, et qu'il convoque des élections peut-être au retour de l'été. Ça, c'est un troisième scénario possible d'après ce que j'ai pu lire.
Merci Manuel Peloual d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier livre coécrit avec Cyril Trépied, L'indépendance catalane en question, aux éditions Atland. Retour en France pour évoquer cette affaire de cyberharcèlement. De nombreuses femmes ont témoigné ce week-end sur les réseaux sociaux pour dénoncer la Ligue du LOL, un groupe Facebook né à la fin des années 2000, composé exclusivement d'hommes, des journalistes principalement, la plupart classés à gauche. Ces hommes ont tenté de faire amende honorable en publiant des excuses ce week-end, une démarche insuffisante pour leurs employeurs d'aujourd'hui qui ont prononcé plusieurs mises à pied. Les précisions de Lucas Caltritti.
David Doucet, rédacteur en chef web au magazine Les Inrocks, mise à pied à titre conservatoire en vue d'un licenciement. Alexandre Hervault, chef de service adjoint au journal Libération, mise à pied à titre conservatoire. Vincent Glade, pigiste pour le quotidien, mise à pied à titre conservatoire également. Ils ont publié des excuses ce week-end. Alexandre Hervault les présente à toutes celles qui ont été blessés par ces mots en quasiment 11 ans d'activité sur Twitter. Il rajoute que certains témoignages lui ont, je cite littéralement, tordu le bide. Pour Vincent Glade, connu également pour avoir été chroniqueur dans le grand journal de Michel Denisot sur Canal+, en 2012, il concède que ce qu'il s'est passé est intolérable. Le journal Libération a donc sévi, mais pour autant Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction, explique qu'il ne s'agit pas d'une sanction.
On a pris cette affaire très au sérieux parce que j'ai lu les témoignages des gens qui ont été victimes de ce cyberharcèlement et que j'ai trouvé révoltant. On a décidé d'ouvrir une enquête interne. Ça peut déboucher sur des sanctions, ça peut déboucher sur autre chose, je ne sais pas, parce que je veux avoir tous les éléments et clarifier le degré de participation des uns et des autres à cette confrérie étrange dont j'ignorais jusqu'à l'existence.
Des sanctions ont été prises en tout cas dans d'autres médias. Brain Magazine arrête sa collaboration avec Vincent Glade justement. Le studio de podcast Nouvelles Écoutes annonce à son tour se séparer d'un de ses journalistes. Enfin, le rédacteur en chef du Tag Parfait, un site d'information sur la culture pornographique, lui, se retire de ses fonctions.
Lucas Caltritti, merci. Le temps demain, gris le matin, plus ensoleillé l'après-midi. Des conditions anticycloniques s'installent sur le pays. Seul le quart nord-est restera sous les nuages en cours de journée. Température minimale de moins 2 à 4 degrés à l'intérieur des terres, de 3 à 7 degrés vers le littoral. Les maximales très contrastées iront de 4 à 18 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.